Il est 19h, Mathilde écoute l'Europe 1.
Le début de l'hommage national à Samuel Paty, professeur assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression. Nous irons à la Sorbonne dès le début de ce journal.
Hommage national pour associer tous les Français, un moment solennel voulu par le chef de l'État qui en appelle à l'unité.
Cérémonie protocolaire à l'intérieur, hommage et recueillement également à l'extérieur. Reportage en direct dans ce quartier latin, terre d'accueil des beaux esprits et des belles lettres.
La lutte contre l'épidémie, il faut s'attendre à de mauvaises nouvelles. Plusieurs départements vont basculer en alerte maximale demain.
Un élu et ancien Premier ministre devant ses pairs, Édouard Philippe s'explique sur la gestion du Covid-19 devant la commission d'enquête de l'Assemblée.
La présidentielle aux États-Unis, ça se rapproche et on suivra bien sûr le carnet de campagne de Xavier Yvon.
Le football, ils attendaient ça depuis 7 ans. Marseille retrouve la Ligue des Champions ce soir.
La tendance météo à Nice et le vent qui souffle toujours mais un peu moins fort demain.
Oui, ça se calme effectivement du côté du vent, mais attention, les pluies, elles, seront de retour et bien présentes sur une grande partie du pays. Les températures seront douces demain, dignes d'une fin avril. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et nous prenons sans plus tarder la direction du quartier latin à Paris pour l'hommage national à Samuel Paty.
Oui, un hommage qui vient de débuter dans l'amphithéâtre de la Sorbonne où l'on vous retrouve, Pierre Herbulot. Vous êtes l'un des trois envoyés spéciaux d'Europe 1 sur place.
Oui, un début de cérémonie sans journaliste, sans caméra, dans l'intimité familiale. Emmanuel Macron, qui vient d'arriver dans l'université, va remettre d'ici quelques minutes la Légion d'honneur et le titre de commandeur des palmes académiques à Samuel Paty, entouré de ses proches. Puis, dans une demi-heure, le cercueil de l'enseignant sera porté par des gardes républicains dans la cour d'honneur de la Sorbonne, où 400 invités sont rassemblés. Suivront des lectures de textes sur l'école, notamment lus par des amis, collègues, élèves du professeur assassiné. Un discours d'Emmanuel Macron, ce sera aux alentours de 19h50. Et enfin, une Marseillaise suivie d'une minute de silence et de recueillement.
Pierre Herbulot en direct de la cour de l'amphithéâtre de la Sorbonne, édition spéciale hommage national à Samuel Paty sur Europe 1 jusqu'à 21h ce soir.
Oui, une journée et un hommage que le chef de l'État a voulu solennel.
Oui, le choix de la Sorbonne n'est pas dû au hasard, on le sait ou on le devine. Jean-Rémy Baudeau, le président de la République, va prendre la parole dans moins d'une heure. Mais au-delà du discours, le chef de l'État veut faire passer un message qui ne sera pas forcément politique.
Dans le message du président, il s'adressera principalement à Samuel Paty, son engagement, les valeurs qu'il portait au quotidien dans son travail, mais plus largement, dans un discours qui devrait durer une vingtaine de minutes, Emmanuel Macron devrait saluer le travail des enseignants, leur importance dans notre République, ce qu'ils apportent aux enfants pour leur émancipation. Pas un discours martial comme le président a pu le faire ces derniers jours, mais tout de même un discours de fermeté sur ces valeurs qui fondent notre société, la liberté de conscience, de pensée, d'expression. Je suis actuellement dans cette cour de la Sorbonne et dans quelques instants aux côtés des familles, de la famille de Samuel Paty, des étudiants, des associatifs, mais aussi une partie de la classe politique française, l'ancien président François Hollande, de très nombreux anciens premiers ministres, des élus, des chefs de parti, un temps comme suspendu pour le recueillement et la reconnaissance de la nation, une parenthèse très loin des polémiques politiciennes, mais comme me le disait il y a quelques instants un ministre, espérons que cette parenthèse durera un peu plus longtemps qu'une soirée.
Jean-Rémy Baudeau en direct de cette cour d'honneur de la Sorbonne, on aura l'occasion de vous retrouver Jean-Rémy très régulièrement tout au long de notre édition spéciale jusqu'à 21h.
400 personnes ont pris place à l'intérieur de la cour, mais à l'extérieur de la Sorbonne, la foule s'est également déplacée pour rendre ses hommages.
Oui, parce que cette cérémonie sera diffusée sur des écrans géants, place du Panthéon et place de la Sorbonne, où l'on vous retrouve, Caroline Baudry. Des personnes sont venues en très grand nombre hein, déjà pour rendre hommage au professeur Samuel Paty.
Oui, beaucoup de monde se trouve ici face au grand écran. L'émotion est palpable. Chloé est venue de Conflans-Sainte-Honorine. C'est une ancienne élève de Samuel Paty, encore sous le choc.
J'avoue que je réalise pas forcément parce que décapité, c'est quand même beaucoup. On croirait plus à un film qu'à la réalité. Et pour moi, c'est vraiment un prof très à l'écoute. Il était vraiment super sympa.
Je suis venue soutenir sa famille, poursuit-elle. Parmi la foule, de nombreux professeurs ont fait le déplacement, comme Laura, qui enseigne l'histoire géo.
Je me sens d'autant plus déterminée dans mon métier, à la rentrée, de vite retrouver mes élèves, qu'on puisse en parler, de faire justement un cours sur la laïcité, la liberté d'expression, j'attends que ça. Maintenant, il faut vraiment qu'on agisse et qu'on arrête de pleurer, d'allumer des bougies, de dire « je suis Charlie, puis je suis Samuel », etc. Et maintenant, qu'il y ait vraiment des actes. Après, il faut qu'on ait réellement un soutien dans notre métier, de la reconnaissance un peu, et vraiment des moyens surtout pour la profession.
Voilà, des passants et des professeurs très émus et pour qui Samuel Paty restera un symbole de la liberté d'expression.
Caroline Baudry devant l'Université Paris-Sorbonne.
Europe 1, il est 19h05, c'est la suite de votre journal, Christophe Lamar, et l'épidémie de Covid qui continue de se propager. Et cette fois, Christophe, même les villes à l'abri du couvre-feu jusqu'à présent sont menacées.
Ah, et le gouvernement va demander une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février prochain. Les chiffres sont en effet inquiétants, Isabelle. Le nombre de patients Covid en réanimation a dépassé les 2000. Le virus se propage vite et le seuil d'alerte est maintenant atteint ou dépassé dans des villes comme Nantes ou Clermont-Ferrand. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal est clair. Il faut s'attendre à un durcissement des mesures sanitaires demain.
Ce virus, c'est un paquebot. Il faut du temps pour le faire bouger. Vous vous souvenez qu'au moment du confinement généralisé du pays, je crois qu'à partir du moment où la France a été confinée, il avait fallu 18 jours avant d'observer la première très légère diminution. Donc vous voyez bien que ça met du temps. Il y a les mesures de couvre-feu, mais d'autres mesures avaient été prises auparavant, notamment sur les bars. Ce que je peux vous dire s'agissant de la conférence de presse de demain, c'est qu'elle verra l'annonce d'un certain nombre de départements qui basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux.
Voilà pour cette mise en garde du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, au micro Europe 1 d'Adrien Beck.
Deuxième vague ou rebond, ce n'est pas de cela dont il s'agit à l'Assemblée, mais bien de la gestion de la première vague au printemps. Édouard Philippe est venu s'en expliquer.
L'ancien Premier ministre a répondu à la convocation de la commission d'enquête parlementaire. 3 heures d'audition et quelques concessions sur des erreurs de communication. Mais sur le fond, Édouard Philippe se défend de tout retard à l'allumage, Aurélie Herbemont.
Oui, Édouard Philippe est venu défendre sa gestion de crise face à ce virus inconnu qui nous a surpris par sa nature, dit-il, s'abritant derrière les scientifiques qui eux-mêmes découvraient le virus. Une question au cœur des débats, celle des masques. Édouard Philippe admet une erreur de communication.
J'ai dit à 13h de TF1 que le port du masque en population générale n'avait aucun sens. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Parce que des médecins me l'avaient dit. Aujourd'hui, la doctrine a changé.
Édouard Philippe également interrogé sur le fiasco des municipales. Pour l'ancien Premier ministre, maintenir le premier tour était la moins mauvaise décision à ce moment-là.
Comment est-ce qu'on fait en sorte, un samedi soir, que les élections n'ont pas lieu le lendemain? Vous imaginez l'ambiance, alors qu'il n'y a pas de consensus politique. Le fait d'aller voter dans une démocratie n'est pas exactement identique au fait d'aller prendre un café dans un café. C'est très important d'aller boire des cafés, mais je ne crois pas que tout se vaille.
L'opposition, qui n'a pas manqué de le questionner aussi sur ses éventuelles divergences avec Emmanuel Macron, pas de désaccord, mais des débats, selon Édouard Philippe.
Confiner trop longtemps, c'est provoquer l'effondrement du pays. Déconfiner trop vite, c'est provoquer, le cas échéant, un redémarrage de l'épidémie. C'est pour ça qu'avoir des débats confiants me semble non seulement une évidence, mais en plus une nécessité.
Plus de 2h30 d'audition dans un contexte particulier, puisqu'on est en pleine deuxième vague et qu'il est donc trop tôt pour répondre à toutes les questions.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Europe 1, édition spéciale, Isabelle Millet.
Il est 19h10, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal, Christophe Lamar, et on part tout de suite aux États-Unis. La présidentielle, Europe 1 se glisse, vous le savez, dans les pas des deux candidats à la Maison-Blanche. C'est le journal de campagne de Xavier Yvon.
I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump.
And I approve this message.
And I approve this message.
Europe 1 live for the American elections.
Bonsoir Xavier Yvon.
Hello, bonsoir à tous.
Alors l'événement, c'est l'entrée en campagne d'un revenant célèbre.
Oui, Barack is back. Barack Obama, de retour sur le terrain. Il va faire campagne pour la première fois en personne en faveur de son ancien vice-président. Ce sera dans quelques heures à Philadelphie, en Pennsylvanie. L'état clé peut-être le plus important cette année. D'ailleurs, Donald Trump y était hier en meeting. Il n'y aura pas la même foule compacte pour Barack Obama. Ce sera un drive-in sur invitation seulement. Covid oblige. Chacun dans sa voiture pour écouter l'ancien président vanter les qualités de son ami Joe, comme il l'a déjà fait dans une vidéo publiée hier sur Internet.
Joe Biden a besoin de votre vote. Je connais Joe mieux que personne ou presque. Je lui fais confiance pour être un grand président. Il est différent, il est du bon côté des problèmes. Il va faire un bon boulot.
Ce discours de Barack Obama aujourd'hui sera dirigé vers les électeurs afro-américains. Joe Biden a besoin de leur mobilisation. Ils avaient manqué à Hillary Clinton il y a 4 ans, malgré, il faut le noter, une grande implication déjà de Barack Obama.
Et Joe Biden qui lui est absent de la campagne aujourd'hui, Xavier, parce qu'il se prépare pour son dernier débat télévisé demain.
Exactement, débat pendant lequel les micros pourront être coupés pour éviter la cacophonie de la dernière fois. Et à propos de civisme ou de son absence dans la campagne, je voulais partager avec vous ce spot tourné par les deux candidats au poste de gouverneur de l'Utah. Le démocrate et le républicain apparaissent ensemble pour donner l'exemple. Écoutez-les, ça fait du bien dans le climat actuel.
Même si je pense que vous devriez voter pour moi.
Non, vraiment, vous devriez voter pour moi. Nous sommes tous les deux d'accord sur une chose. Nous pouvons débattre sans nous dénigrer personnellement. Nous pouvons être en désaccord sans nous haïr.
Alors montrons au pays qu'il y a une meilleure façon de faire.
Mon nom est Chris Peterson.
Et je suis Spencer Cox.
Et nous approuvons ce message.
Et bel exemple, en effet. Et on termine par ce chiffre du jour, Xavier.
Oui, un chiffre qui choque beaucoup d'Américains. 545. 545 enfants de migrants n'ont toujours pas retrouvé leurs parents. Ils avaient été séparés à la frontière au nom de la politique de tolérance zéro de l'administration Trump. C'était il y a 2 ans, pratique finalement abandonnée devant le scandale qu'elle avait provoqué. Et pourquoi c'est important dans la campagne? Eh bien parce que c'est un sujet dont on me parle régulièrement sur le terrain. C'est souvent une raison invoquée d'ailleurs par les électeurs qui se détournent de Donald Trump.
L'œil de Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le journal de campagne, c'est tous les soirs sur Europe 1 à 19h. Le foot après le PSG et Rennes. On n'oublie pas Marseille, Christophe, c'est au tour de l'OM d'entamer sa campagne en Ligue des Champions.
Mais oui, certainement pas. Déplacement en Grèce pour les Marseillais qui affrontent l'Olympiakos ce soir. L'OM qui trépigne d'impatience à l'idée de retrouver ce parfum européen qui lui a tant manqué, Stéphane Frangy.
Oui, c'est un rêve devenu réalité pour les Marseillais. 7 ans, c'est long et pas question cette fois-ci de passer à côté de la compétition, non. L'OM est vraiment ambitieux pour cette campagne et d'ailleurs le coach André Villas-Boas s'est fixé un objectif très clair.
Se qualifier pour le 8e de finale, c'est un gros exploit dans un groupe comme ça. Maintenant, c'est vivre cette rêve, mais bon, on est parvenu en vacances évidemment. On ne va pas entrer avec les valises en main sur la pelouse, on va entrer avec le maillot de l'OM et toute son histoire et l'étoile dorée qui est sur le logo aussi.
Et ce match qui signera également les retrouvailles avec l'ex-olympien Mathieu Valbuena. Le gardien de l'OM, Steve Mandanda, est d'ailleurs très méfiant à l'heure d'affronter son ancien coéquipier.
Moi je le connais très bien pour avoir joué pas mal d'années avec lui. C'est un joueur qui est extraordinaire, qui a beaucoup de qualités, très adroit devant le but. En étant gardien et en le connaissant, on est encore plus vigilant. Donc à nous et à moi aussi d'être concentrés et performants.
Voilà, et attention à cette équipe de l'Olympiakos, expérimentée et en grande forme, puisque depuis la reprise du championnat, les Grecs n'ont encaissé qu'un seul but et n'ont pas perdu le moindre match.
On espère en effet qu'ils ne seront pas en vacances ce soir, les Marseillais. Stéphane Frangy, envoyé spécial d'Europe 1 au Pirée, en Grèce. Marseille-Olympiakos, coup d'envoi à 21h. C'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe, on vous dit à demain. Anissa Haddadi, demain, la pluie qui s'invite après le vent.
Hein. Oui, notamment sur le Languedoc-Roussillon et les Cévennes, Isabelle, demain où les pluies vont s'intensifier dans l'après-midi. Alors c'est une habitude hein, tous les ans dans cette région, c'est ce qu'on appelle les épisodes cévenols, mais prudence demain. Alors le temps, il est assez instable hein, sur l'ensemble du pays tout au long de la journée, avec quasiment toute la France des averses parfois orageuses. Alors ce qu'on va faire, si vous le voulez bien Isabelle, c'est que je vais d'abord vous donner les régions où il ne va pas pleuvoir. Comme ça, si vous habitez le quart nord-ouest, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, vous êtes tranquille, le temps sera sec. Si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas dans l'une de ces régions, demain, vous prenez un parapluie, ça sera obligatoire. Les températures, elles sont douces, dignes d'une fin avril, je vous le disais, avec 9 à 17 degrés le matin, 9 pour Annecy, 18 à Marseille et 17 à 26 degrés l'après-midi, 17 pour Belfort, 20 à Paris, 22 pour Angoulême, 24 à Biarritz et 26 la maximale prévue pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, on vous dit à demain.
À demain.